Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui. Pour commencer, Uli va nous rappeler où nous en sommes dans le récit du livre de l'Exode. Uli, bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. Depuis un certain nombre de générations, le peuple d'Israël vit en Égypte, où il souffre de l'autorité tyrannique du Pharaon. L'esclavage, les travaux forcés et la brutalité sont son lot quotidien. C'est dans ce contexte que Dieu envoie Moïse et son frère Aaron auprès du Pharaon pour qu'il lui demande de libérer son peuple de l'oppression. Or, le Pharaon s'est opposé à cette requête. De ce fait, Dieu envoya une série de fléaux catastrophiques qui s'abattirent sur le pays d'Égypte.
Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces confrontations entre Dieu et le Pharaon. Dans un premier temps, Emmanuel va nous lire un extrait du récit du septième fléau qui s'abattit sur le pays d'Égypte. Il se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 9, les versets 22 à 35.
L'Éternel dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel et que la grêle s'abatte sur tout l'Égypte, sur les hommes, les bêtes et toute la végétation dans le pays. » Moïse leva son bâton vers le ciel et l'Éternel déchaîna le tonnerre et la grêle, et la foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte. Des éclairs jaillissaient au milieu de la grêle, et la grêle était si violente qu'il n'y en avait jamais eu de semblable dans tout l'Égypte depuis que la nation existe. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tout ce qui se trouvait au champ, hommes ou bêtes. Elle hacha toute la végétation et brisa tous les arbres. Seule la région de Goshen où habitaient les Israélites fut épargnée. Alors le Pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez l'Éternel de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra pas davantage. » Moïse dit, « En quittant la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre cessera et la grêle s'arrêtera, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Quant à toi et à tes hauts fonctionnaires, je sais que vous n'obéirez encore pas à l'Éternel Dieu. » Moïse sortit de chez le Pharaon. En quittant la ville, il leva les mains vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie arrêta de tomber. Quand le Pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il persista dans son péché et s'entêta. Ses hauts fonctionnaires firent de même. Il s'obstina et ne laissa pas partir les Israélites comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse.
Je voudrais revenir sur une leçon que j'ai évoquée la dernière fois. À un moment donné, dans le texte que nous venons de lire, le Pharaon semble faire une démarche de foi. Quatre éléments contenus dans ce texte pourraient nous amener à cette conclusion. D'abord, le Pharaon reconnaît que lui et son peuple sont pécheurs et coupables devant Dieu. Ensuite, il reconnaît que son pays, tout comme lui, mérite les fléaux qui les affligent. Il voit à travers ces calamités un juste châtiment. Puis, le Pharaon demande à Moïse de prier pour que ces fléaux s'arrêtent. Il implore la miséricorde de Dieu et son secours. Le Pharaon reconnaît que les dieux égyptiens sont faibles, qu'ils ne peuvent lui apporter aucun secours. Le Pharaon semble à présent mettre sa confiance au Dieu sauveur. Enfin, le Pharaon affirme qu'il laissera le peuple d'Israël partir et il donne l'impression de se soumettre à la volonté de Dieu.
Mais s'agit-il là d'une réelle conversion? On a l'impression que oui. Toutefois, la suite du récit nous révèle que cela n'est pas le cas. Uli reprend.
Moïse prie Dieu et ce dernier lui répond en arrêtant la grêle. Cependant, dès que la grêle a cessé de tomber, le Pharaon est revenu sur ses engagements. Il s'est à nouveau opposé à Dieu. Il a refusé de laisser le peuple hébreu partir. Nous ne pouvons que conclure que sa soi-disant démarche de foi n'était pas sincère et que ses motivations étaient intéressées et égoïstes. Pris peut-être de panique, le Pharaon voulait simplement et à tout prix sortir d'une crise. Toutefois, dès que la crise est finie, il oublie tout ce qu'il a dit. Ou bien, peut-être, croyait-il qu'en tant que Pharaon, Dieu devait le servir et répondre à ses intérêts? Alors qu'en réalité, c'est lui qui aurait dû servir Dieu et se plier à sa volonté.
Merci, Uli. À présent, Yann va nous parler de la pertinence de ce récit pour nous aujourd'hui.
Nous pouvons nous le demander. Combien de personnes ressemblent-elles à Pharaon? Combien de personnes éprouvées par une crise quelconque se tournent-elles vers Dieu pour rapidement l'oublier quand la crise est finie? Combien de personnes frappées par une épreuve font des promesses impétueuses à Dieu dans l'espoir que celle-ci le convainque de les secourir? Et parmi ces personnes, combien tiennent-elles leurs engagements quand la tempête est passée? Que l'exemple de Pharaon nous serve d'avertissement. Car beaucoup se tournent vers Dieu seulement quand la vie devient difficile. Cependant, une foi qui ne s'exprime que dans les coups durs est une foi intéressée, mais pas sincère. Une foi éphémère, où la personne implore le secours de Dieu un moment pour lui tourner le dos le lendemain, n'est pas une foi véritable. Une foi où la personne, sous le coup de la douleur, fait des promesses impossibles à tenir, n'est pas une véritable foi. De nos jours, on peut trouver un enseignement similaire qui encourage à adopter le même comportement que celui de Pharaon. Et ainsi, beaucoup cherchent Dieu dans l'espoir de sortir de la pauvreté et devenir riche. D'autres le cherchent pour trouver la réussite professionnelle ou sentimentale. Leur croyance est que Dieu existe pour servir leurs intérêts physiques et matériels, qu'il n'est présent que pour leur donner ce qu'ils veulent. Mais qu'y a-t-il dans le cœur de ces gens qui cherchent d'abord les biens matériels? Je crains que leur foi ne soit pas authentique. Je crains qu'ils n'ont pas un réel désir de connaître Dieu et de marcher avec lui. Ils ne connaissent pas la véritable repentance, ni n'ont le désir de faire des progrès dans la sainteté et de vivre comme un disciple. Je crains, comme cela fut le cas pour Pharaon, que trop de personnes cherchent Dieu uniquement dans l'espoir d'obtenir quelque chose de lui, au lieu de vouloir le connaître, l'aimer, l'adorer, le servir et lui obéir.
Merci Yann pour cet avertissement. Chers amis, que chacun d'entre nous réfléchisse à ses motivations afin de sonder si notre foi est sincère et vraie, si notre amour pour Dieu est véritable. À présent, nous retrouvons Uli, qui va nous parler d'autres leçons qui se dégagent de ces chapitres du livre de l'Exode, relatant les fléaux que Dieu a envoyés sur l'Égypte.
Oui, je voudrais m'arrêter sur une petite phrase qui revient plusieurs fois dans ces chapitres.
Emmanuel va nous lire quelques extraits.
Moïse dit: « Il sera fait comme tu le demandes, pour que tu saches que l'Éternel notre Dieu n'a pas d'égal. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Le tonnerre cessera et la grêle s'arrêtera, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. »
Merci. Vous en souvenez-vous, la première fois que Moïse s'est présenté devant le Pharaon, ce dernier a affirmé avec mépris ne pas connaître Dieu. Or, selon ces versets lus, l'une des raisons pour laquelle Dieu a envoyé les fléaux sur le pays d'Égypte était pour se faire connaître au Pharaon. Dieu ne se cache pas, non, il se révèle. Il dévoile ses qualités et son caractère. Nous pouvons découvrir qui il est, nous pouvons le connaître. Mais qu'est-ce que le Pharaon a appris de ce Dieu qui se révèle? Et nous-mêmes, qu'apprenons-nous de lui? Dieu a surtout révélé sa toute-puissance, il est le maître souverain et il déploie sa force pour réaliser ses desseins. Dieu révèle sa souveraineté sur la création. Dieu révèle sa souveraineté sur les civilisations humaines. Il se montre victorieux sur les idoles et les puissances spirituelles. Rien ni personne ne peut résister à sa puissance. Il est le plus fort. Puis Dieu prouve qu'il soutient le peuple qu'il s'est choisi. Il est avec lui et pour lui. Dieu a mis son peuple à l'abri de tous les fléaux qui se sont abattus sur les Égyptiens. Dieu protège son peuple. Il défend ses intérêts. Il agit pour le libérer de l'oppression. Il déploie sa puissance en sa faveur. Dieu s'est fait connaître au Pharaon, mais ce dernier lui a tenu tête au lieu de se soumettre à sa volonté. Nous apprendrons par la suite que le Pharaon a rencontré une fin bien tragique. Qu'en est-il pour vous, cher ami? Car encore de nos jours, Dieu se révèle. Écoutons un verset du Nouveau Testament trouvé dans la lettre écrite aux Hébreux.
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être.
Si aujourd'hui vous voulez connaître Dieu, venez à Jésus-Christ, car c'est en lui que Dieu s'est pleinement révélé. Profitez de toute occasion pour en savoir plus sur Jésus. Cherchez à vivre en communion avec lui, par la foi et par la prière, aussi bien que par la soumission et l'obéissance.
Merci Uli. Nous serons de retour la prochaine fois pour continuer cette série consacrée aux chapitres 7 à 10 du livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.